journal avec vous Alexandra Dubouchereau. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors qu'en France, le port du masque gagne du terrain, cette scène surréaliste à Berlin cet après-midi, des milliers d'Allemands ont défilé pour dénoncer les mesures barrières et fêter la fin du coronavirus. Précision de notre correspondant sur place. Dans un instant, on entendra aussi la réaction du médecin français Jérôme Marty. Il réclame plus de pédagogie. Dans ce journal, nous irons aussi en Grèce où les migrants vont devoir rester confinés jusqu'à fin août. En France, l'incendie de la forêt urbaine d'Anglette est d'origine humaine, mais le maire de la commune dénonce depuis des années une végétation trop sauvage, vous l'entendrez. La PMA et la recherche des origines approuvée par les députés, un soulagement pour Audrey qui milite depuis des années pour retrouver son père biologique. David Hallyday, lui, renonce à l'héritage de son père. Il ne veut ni argent, ni objet personnel, son avocat l'a dit aujourd'hui. Et puis on fera le point sur la route du chassé-croisé des vacances et cette vigilance orange, orage et ou canicule de la Côte d'Or aux Deux-Savoie. Prévision météo à la fin du journal.
France Inter.
Bas les masques à Berlin, c'est l'image de ce samedi soir et elle peut choquer à l'heure de la pandémie de coronavirus. Une marche de quelques 17 000 personnes, selon la police, sans aucun geste barrière ni masque, organisée cet après-midi dans les rues de la capitale allemande. Des manifestants qui refusent les mesures anti-coronavirus, elles restreignent selon eux leur liberté. Ils se disent résistants, leurs détracteurs les appellent les Covidios. C'est en fait un regroupement hétéroclite de libres penseurs, d'anti-vaccins, de conspirationnistes et d'extrême droite. Les précisions de Romain Chevalier à Berlin pour France Inter.
Les manifestants réclament la fin de deux mesures de protection, la distanciation sociale et le port du masque. Dans le cortège, il est perçu comme un signe de soumission semblable à une muselière. Sur les pancartes, les écriteaux vont dans le même sens. On peut notamment lire « Réveillez-vous et enlevez votre masque ». D'ailleurs, dans ce rassemblement, toutes les mesures de protection dénoncées ne sont pas respectées. Les anti-corona ont même réclamé aux quelques porteurs de masques de les retirer immédiatement. De son côté, la police a déposé plainte contre les organisateurs pour non-respect de ces règles. Cette manifestation, censée fêter la fin de la pandémie, apparaît comme un paradoxe. Si l'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par le virus, depuis plusieurs jours, le nombre de contaminés repart à la hausse, plus 955 cas aujourd'hui, une augmentation que le pays n'avait plus connue depuis début mai. Berlin, Romain Chevalier, France Inter.
Une manifestation qui choque dans le pays même. Plusieurs responsables politiques l'ont critiquée sur les réseaux sociaux. Mais elle fait réagir aussi en France, où le masque est de plus en plus imposé, en plein air, au Touquet, à la Turballe, à Bayeux depuis aujourd'hui. Lundi, ce sera autour de la métropole lilloise. Le docteur Marty est généraliste, président de l'un des syndicats de médecins libéraux, l'UFML. Et ce week-end, il est de garde au SAMU de Toulouse. Le virus, c'est donc son quotidien. Et pour lui, il faut continuer à faire de la prévention pour que les gens comprennent l'importance du masque.
Ça me rend triste surtout, ça me rend triste et puis avec quand même un peu de colère parce qu'on se bat contre un virus, malheureusement, qui est encore là parmi nous pendant quelques mois et dont la seule parade aujourd'hui, c'est le masque. Si vous voulez, moi je suis médecin, donc je ne suis pas là pour juger les comportements d'intelligence ou non. Je crois que ça participe d'une incompréhension parce que si on a encore des milliers de gens qui n'ont pas compris et qui pensent qu'il y a un complot là-dessous ou qu'on va leur faire porter pour diminuer leur liberté, c'est qu'on n'a pas été bon dans les explications, donc il faut toujours réexpliquer pour arriver à avoir une acceptation de ce masque qui fait partie des choses, enfin de l'organisation de nos vies. C'est comme ça, quand on a eu malheureusement l'épidémie de sida, on a tous changé nos vies, on a porté le préservatif, et bien là, on doit porter le masque.
Le médecin généraliste Jérôme Marty à la tête du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Les masques et les dépistages qui se généralisent aussi depuis aujourd'hui, que vous soyez français ou non, si vous voulez venir dans l'Hexagone depuis les États-Unis, l'Inde, le Brésil et 13 autres pays jugés à risque, il faudra vous soumettre à un test PCR dans les ports et dans les aéroports. Liste complète des territoires concernés sur franceinter.fr. En Grèce, c'est l'incompréhension chez les défenseurs des migrants. Le confinement est prolongé jusqu'à la fin du mois d'août dans les camps surpeuplé. Une décision en plein Aïd, la grande fête des musulmans. Le gouvernement dit vouloir éviter la propagation du coronavirus alors que les contaminations sont en hausse dans le pays. Notre correspondante à Athènes, Angélique Kourounis, a pu joindre l'un des demandeurs d'asile du camp de Moria sur l'île de Lesbos.
Mahmoud Afghan était médecin dans son pays, dans le camp de Moria où il attend depuis des mois une réponse à son dossier de demande d'asile. Il s'est transformé en cuisinier. Aujourd'hui, sa priorité est de faire en sorte que chacun puisse fêter l'Aïd correctement malgré la prolongation du confinement. Joint par téléphone, il nous explique comment.
Nous essayons de faire de notre mieux. Nous faisons des gâteaux, des desserts, ce que l'on fait pour ces journées spéciales. On cuisine de l'agneau avec du riz et des gourmandises. Et comme c'est la crise du coronavirus, on ne peut pas inviter les gens, on ne peut pas sortir à cause des mesures de confinement dans le camp. Alors, on envoie les plats préparés dans les foyers. S'il n'y avait pas cette épidémie, j'inviterais tous ces gens chez moi. Là, j'envoie des paquets à ceux que je connais, mais aussi à des amis d'amis.
Pour les réfugiés, le confinement commencé en mars dernier se poursuivra au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Cela rend les festivités de l'Aïd encore plus difficiles. Cette 7e prolongation du confinement est dénoncée par toutes les ONG comme injuste et raciste. Angélique Cournis, Athènes, France Inter.
Et toujours à propos du coronavirus, ces mots de l'OMS à l'instant, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé prévient que l'épidémie sera très longue. On l'apprend à l'instant dans les Bouches-du-Rhône. Un détenu de la maison d'arrêt d'Arles a agressé 3 surveillants avec une arme artisanale tout à l'heure après un parloir. Le prisonnier s'est retranché dans les locaux des visites. Gérald Darmanin exprime son soutien total aux 3 policiers blessés ce matin à Montpellier dans l'Hérault. L'un d'eux est dans un état jugé préoccupant. C'est un conducteur de scooter de 25 ans qui les a violemment percutés en refusant de se soumettre à un contrôle routier. Il est en garde à vue. Après la consternation, les premières constatations à Anglette, l'incendie qui a ravagé 165 hectares de végétation avant-hier dans cette commune des Pyrénées-Atlantiques est d'origine humaine. Voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure le parquet de Bayonne, qui exclut donc la foudre ou le fil électrique. Mais le maire Claude Olive, lui, pointe l'entretien de cette forêt urbaine gérée par l'ONF, l'Office national des forêts.
Ça fait une quinzaine d'années que je dis que cette forêt, c'est pas comme ça qu'elle aurait dû être gérée. Dans une forêt rurale, vous pouvez laisser la végétation prendre le dessus, entretenir que les bordures de chemin et laisser la biodiversité venir se développer à outrance. Une forêt qui est dans un milieu urbain, donc il faut une spécificité sur l'entretien, parce qu'aujourd'hui on a 165 hectares de forêt qui sont partis, parce qu'on a eu des difficultés à maîtriser le feu par rapport à, eh bien, à cette végétation qui était à la base des pins, à même le sol. C'est une chance d'avoir une forêt comme ça dans un cœur de ville de 40 000 habitants, alors il ne faut pas en faire un jardin public, mais je préconise une gestion d'une forêt urbaine, de l'entretien, une accessibilité sur toutes les parcelles par rapport au secours, ça n'a rien à voir avec une forêt où on laisse la végétation prendre le dessus.
Le maire d'Anglet, Claude Olive, avec Sébastien Sabiron pour France Inter. 2 autres incendies sont en cours ce soir. 60 hectares sont partis en fumée à Saint-Marcel, les Annonais, dans le nord de l'Ardèche. Le feu se propage vers le département voisin de la Loire. 4 canadaires et 200 pompiers sont sur place. Et puis, un feu a pris au niveau de l'aire d'autoroute de Millau, sur l'A9, au sud de Nîmes, dans le Gard. Plusieurs maisons ont dû être évacuées. D'importantes fumées se dégagent. Il y a aussi des chutes de cendres. 10 d'hectares de végétation a brûlé. Et il y a 3 km de ralentissement en direction de l'Espagne. Des ralentissements alors que les conditions de circulation sont déjà difficiles sur les routes pour ce week-end de grands chassés-croisés des vacances. On fait le point sur vos conditions de circulation justement à la fin du journal. Et là où l'on transpire aussi ce week-end, où l'on se bouscule, c'est dans les campings entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Illustration au camping Les Rochers des Parcs à Glessis dans le Calvados. Reportage Léa Dubost.
Certains sont en train de planter leur tente alors que d'autres referment leurs valises. Après une semaine de vacances, Daniel retourne en Île-de-France.
Là, on nettoie, on range tout et puis on s'en va. Un petit peu triste de repartir en Île-de-France et un petit peu triste de retourner au travail, comme tout vacancier, quoi. Mais bon, ça a fait du bien, beaucoup de bien. Plus voir les embouteillages, plus entendre parler du Covid, prendre l'air, changer d'air.
Et c'est souvent pour la même raison que les vacanciers choisissent ce camping en pleine nature, entouré d'arbres et de rivières. À peine arrivés, Laurent, Fabienne et leur groupe d'amis normands ont déjà leur programme en tête.
On va aller manger au resto, après on se fait un petit kayak et puis après une petite balade de moto.
Ce soir apéro, resto évidemment, on va essayer d'en profiter. Nous on est assez camping sauvage, on aime bien la simplicité. Au moins on a le bruit des petits oiseaux et puis tu vois des voitures sans permis, hop c'est là, ça donne son petit charme, c'est agréable.
Des voitures mais aussi des motos ou des camping-cars, il y a beaucoup plus de mouvement que d'habitude ce week-end, comme le constate Ludovic Dubosc, le gérant.
Pour nous c'est vraiment une très très grosse journée, oui. Alors, on est bien occupé là. du matin de bonne heure jusqu'au soir tard. On a tous nos habitués du mois de juillet qui s'en vont et on a hâte d'accueillir les nouveaux habitués du mois d'août. Ça fait du bien au moral. C'est important pour nous que tout ça, ça vive. Ouais.
Le camping s'est donc bien rempli, mais il reste encore quelques places pour le mois d'août.
Un reportage France Bleu, Basse-Normandie, signé Léa Dubost. France Inter, il est 19h10. Retour sur le projet de la loi bioéthique adoptée cette nuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et qui doit encore passer devant les sénateurs dans quelques mois. Au-delà de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, le texte contient plusieurs mesures de poids, comme l'accès aux origines des donneurs. En clair, les enfants nés d'une PMA pourront à leur majorité connaître l'âge ou la couleur de cheveux, par exemple, et même l'identité du père biologique, si celui-ci est d'accord. Et ce sera rétroactif. Cette mesure, c'était le cheval de bataille depuis des années d'Audrey Kerma-Velzen, une Française issue d'une PMA.
On est ravis de ce vote à l'Assemblée nationale. Moi, ça fait 10 ans que je demande ça. En fait, j'ai introduit un recours devant les juridictions françaises depuis 2010 et maintenant je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la finalité de mon recours, c'était précisément ça. C'était poser la question aux donneurs. Comme on le fait depuis 2002 pour les femmes qui ont accouché sous X, lorsque une personne qui est née dans le secret recherche ses origines, on recontacte sa mère de naissance et on lui pose discrètement la question. Souhaitez-vous ou non rester dans l'anonymat ? Et donc, ce qui a été prévu, c'est exactement la même chose pour les donneurs de gamètes. On va leur poser la question. Souhaitez-vous ou non transmettre des données identifiantes ou non identifiantes sur vous aux personnes issues de vos dons ? Et là, le donneur aura le droit de dire oui ou non et on respectera bien sûr sa décision.
Audrey Kerma-Velzen avec Hélène Chevalier pour France Inter. C'est la fin de 2 ans de feuilleton autour de l'héritage de Johnny Hallyday. David Hallyday renonce à la succession de son père. Au début du mois, on avait appris qu'un accord définitif et confidentiel avait été trouvé entre la veuve du chanteur et sa fille, Laura Smet. Et voilà donc, Sébastien Sabiron, cette annonce du fils aîné à présent, il ne réclame rien.
On se souvient de Laura Smet regrettant publiquement de n'hériter ni d'une guitare, ni d'une moto, ni même de la pochette de disque de la chanson qui lui était dédiée. David Hallyday, lui, ne revendique rien, ni argent, ni objet, ayant appartenu à son père. Dès le début, rappelle son avocat, le chanteur s'était joint aux procédures par solidarité, afin de s'assurer que ses 3 sœurs, Laura, Jade et Joy, seront protégées. Objectif atteint, estime-t-il aujourd'hui. Maître Jean-Pierre Douvier, son avocat.
C'est un point final. Dès l'instant où il y a un accord entre Laura et Laetitia, nous désistons de toutes les procédures. Nous n'avons rien reçu comme objet de valeur sentimentale, et encore une fois, on n'a rien demandé. Donc, c'est tout à fait normal que nous n'ayons rien reçu.
En 2018, les deux aînés avaient tenté sans succès d'obtenir en justice un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Désormais, David Hallyday se dit rassuré quant à la gestion de l'œuvre musicale contrôlée par Laetitia Hallyday, son avocat Jean-Pierre Douvier.
Ce qui lui importait, c'était que l'image de son papa soit respectée et que sa carrière musicale puisse perdurer chez ses fans. Et donc, on n'a pas repéré de dérive en la matière et tout ceci est fait dans le respect. On n'a pas de souci particulier.
À 53 ans, David Hallyday veut tourner la page et se consacrer à sa famille, à la musique, à la protection animale et environnementale.
Sébastien Sabiron pour France Inter. La finale de la Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Ce soir, Arsenal affronte Chelsea à Wembley depuis 42 minutes pour l'instant. 1-1 entre les deux équipes. Et lui était l'ancien attaquant vedette de Chelsea, mais aussi de l'OM, l'ex-footballeur Didier Drogba, officiellement candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Il a finalement obtenu assez de parrainage. On file au PC Mobilité de Radio France. Caroline Félix, vous êtes nos yeux sur la route. On a compté 760 km de bouchons cumulés à midi et sous un soleil de plomb. On arrive donc au bout de cette journée de grand départ. Les bouchons se résorbent notamment sur l'A7 en ce moment.
Oui, il n'y a plus de retard entre Lyon et Montélimar en allant vers le sud. Les blocages, c'est surtout entre Montélimar et Orange. Comptez 1h30 entre les deux villes contre une demi-heure d'habitude. Vous roulez très lentement en longeant Montélimar, puis vous avez à nouveau le pied sur le frein à partir de Bolène sur une 20aine de kilomètres. Ailleurs en France, prudence sur l'A9 après Nîmes en allant vers l'Espagne. Il y a un incendie à hauteur de Millau à quelques centaines de mètres de l'autoroute. L'aire de repos est fermée, la circulation est ralentie. Et puis un peu plus loin à Vergès sur l'A9, toujours en direction de Barcelone, il y a un accident. 2 voitures sont sur la bande d'arrêt d'urgence.
Merci beaucoup Caroline Félix, en direct du PC Mobilité de Radio France. Et demain, la journée est classée orange dans le sens des retours. Évitez les grandes métropoles, Paris notamment, entre 10h et 20h. Prudence aussi dans le centre-est. 13 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Météo France ajoute ce soir pour 5 d'entre eux une alerte aux orages. La Loire, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme, avec des risques de grêle et de fortes rafales de vent. Le point sur la météo de votre dimanche avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain, et c'est une bonne nouvelle, les températures vont baisser sur l'ensemble du territoire. Les maximales seront généralement comprises entre 24 et 28 degrés. Prévoyez 24 à Rennes et Biarritz, 25 à Lille, Nantes, Besançon et Clermont-Ferrand. Comptez 26 dans la capitale comme à Tours, Dijon et Bordeaux. On attend 27 degrés à Nancy, Lyon et Toulouse. On dépassera encore la barre des 30 degrés près de la Méditerranée, avec 30 à Perpignan, 32 à Ajaccio, 34 à Marseille et 35 à Nîmes. En revanche, les maximales resteront fraîches sur les plages de la Manche. N'attendez pas plus de 21 degrés à Brest, Saint-Malo et Cherbourg. Côté ciel, votre matinée sera très nuageuse de la Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne-Franche-Comté jusque vers le Grand Est. Prévoyez encore quelques averses localement orageuses près des frontières du Nord-Est. Partout ailleurs, vous aurez d'assez belles éclaircies. L'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain pour s'imposer dans la plupart des régions, excepté vers les massifs pyrénéens, alpins et jurassiens, qui conserveront un ciel plus nuageux avec en prime des averses.
Jean-Pierre Hameau de Météo France. Et un retour juste sur vos conditions de circulation demain. Ce n'est pas orange dans le sens des retour, mais bien dans le sens des départs, et ce sera vert dans le sens des retours. Très bonne route, France Inter, il est 19h16.